Bienvenue dans Impact Positif. Je m'appelle Sylvia Micon et je suis ravie de vous accompagner, le temps de vous faire découvrir un parcours, une démarche, une personnalité. Pour ce podcast, une seule promesse, donner la parole à celles et ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer, protéger la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur approche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre ? Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous.
Je ne suis pas pour une décroissance économique, mais je suis pour une décroissance du gaspillage, je suis pour une décroissance de l'inefficience, une décroissance de la déraison. Aujourd'hui, c'est clair qu'on gaspille tellement de choses que si on devenait plus efficient et qu'on utilisait les technologies d'aujourd'hui, on aurait déjà résolu 50% du problème. La concurrence acharnée pousse la qualité vers le bas, pousse les prix vers le bas, et pousse la quantité de ce qui est produit vers le haut, et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, si la décroissance, c'est ça, je suis d'accord, mais ça, c'est pas de la décroissance économique, c'est de la décroissance de la stupidité avec laquelle on produit trop de trucs inutiles, polluants, qui voyagent d'un bout à l'autre du monde et qui participent au mal collectif plutôt qu'au bien collectif.
En quelques phrases, la philosophie de Bertrand Piccard résumée. L'explorateur est quelqu'un que nous suivons depuis plusieurs années. Il y a 2 ans, il commençait à peine à récolter ses 1000 solutions pour le climat. Aujourd'hui, le pari est presque atteint. Et il s'en ira bientôt, portfolio sous le bras, convaincre les décideurs. Alors que nous célébrons les 5 ans des accords de Paris, où en est-on ? L'occasion de faire le point avec Bertrand Piccard. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début et aux autres qui nous rejoignent en cette 3e saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez-le, cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 5, Andiamo. Bertrand Piccard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de revenir dans Impact Positif. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Vous êtes un explorateur, pilote, psychiatre. On se souvient tous d'une de vos plus belles aventures. C'est Solar Impulse, le tour du monde avec votre avion fonctionnant à l'énergie solaire. C'était il y a 5 ans et cela préfigure sans doute ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Après ce défi, vous avez lancé votre fondation Solar Impulse et vous vous êtes donné ce défi donc de récolter 1000 solutions efficientes, labellisées pour aider les entreprises, les industries, les États à embrasser sereinement la transition écologique. Vous avez même lancé une alliance mondiale pour les solutions efficientes. C'était lors de la COP22 de Marrakech. Vous en êtes où dans ces 1000 solutions ? Paris, plus que réussi, je crois, Bertrand Piccard.
Alors, on n'a pas encore dépassé les 1000 solutions, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en a 864 aujourd'hui et ça arrive maintenant de manière exponentielle. C'était un petit peu difficile au début de faire comprendre ce qu'on voulait faire et maintenant que les entreprises, les startups ont compris, eh bien, c'est elles qui nous amènent spontanément des dossiers de soumission qu'on amène à nos experts. On a un groupe de 420 experts qui labellisent. La crédibilité, ça doit fonctionner déjà aujourd'hui, ça ne doit pas être une vague idée pour le futur. Ça doit protéger l'environnement, c'est fondamental, et ça doit être financièrement rentable pour l'entreprise qui produit et pour le consommateur. Donc, quand ces 3 critères sont atteints, on pose le label. Maintenant, 864 labels, bientôt 1000. Ensuite, on va dépasser les 1000 parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses dans le monde. Mais il faut déjà que ces 1000 premières solutions, on puisse les faire implémenter, mettre en œuvre au niveau des gouvernements.
Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est ce label qui fait un peu la différence, finalement, par rapport à d'autres choses qui sont mises en place. Ce label, c'est le fait que ces solutions, elles soient expertisées par ce comité dont vous venez de parler.
Exactement. Vous savez, il y a beaucoup de labels d'écologie, de commerce équitable, de provenance certifiée, et c'est très, très bien. Mais ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir prouver ce qui, dans toute cette jungle de technologies, est rentable, ce qui peut vraiment être utilisé. Parce qu'on fête en ce moment les 5 ans de l'accord de Paris. Mais si ça a tellement peu avancé sur le plan international, si les mesures tardent tellement à être prises, c'est que beaucoup de gens croient toujours, faussement d'ailleurs, que ça coûte cher. Que ça va leur coûter beaucoup, que ce sera des sacrifices, qu'ils vont devoir demander des subsides publics, etc. Or, aujourd'hui, Eh bien, dans beaucoup de domaines, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est rentable. Donc, il n'y a aucune excuse, aucune explication pour ne pas être plus propre et plus efficient.
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces solutions? Qu'est-ce qui vous a bluffé à vous, Bertrand Piccard, si vous deviez nous parler d'une solution, par exemple?
Alors, y a des
alors c'est compliqué, alors, hein, sur 864.
Oui, là, on mettra beaucoup de temps. Non, mais vous savez, ce qui est amusant, c'est que les gens ont des idées qu'on n'aurait pas nous-mêmes spontanément. Ils arrivent tout à coup à trouver ce qui, dans un créneau particulier, va pouvoir être plus efficient. Un processus industriel qui permet de fabriquer de l'acier inoxydable avec 99% moins d'eau et c'est 91% plus rentable. Il fallait y penser. Et puis, vous avez des vraies inventions dans des domaines qu'on connaît tous, c'est les émissions toxiques des voitures. Un module qui s'installe sur le moteur de votre voiture diesel ou essence, ça enlève 80% des particules toxiques et ça diminue de 20% la consommation d'essence. Donc, cette baisse de consommation d'essence ou de carburant fait que ça paye pour le système en quelques mois. Puis en même temps, vous avez un échappement beaucoup plus propre pour la santé publique. C'est fondamental dans les villes notamment. Mais il y a des limites à tout ça. Les limites, c'est que les réglementations sont tellement laxistes qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent « mais ce que je fais est légal, ce que je fais est légal, ça pollue peut-être, mais c'est légal ». Et ce qu'on doit absolument montrer aujourd'hui, c'est que les réglementations doivent évoluer, les réglementations doivent devenir beaucoup plus axées sur la recherche d'efficience, et c'est comme ça qu'on va tirer ensuite toutes ces nouvelles innovations sur le marché, parce que finalement, la start-up dont je vous ai parlé avec ce produit anti-smog, si c'est toujours permis de polluer, elle va faire faillite. Alors d'un côté, il y aura des emplois perdus dans l'entreprise, puis de l'autre, il y a des gens qu'on va devoir payer en plus dans les hôpitaux pour guérir les maladies cardiovasculaires, les respiratoires, les cancers du poumon, etc. C'est aberrant. Il faut revenir à du bon sens, où on fait une allocation de ressources, là où on fait du bien, là où on peut prévenir, là où on supprime du gaspillage, de l'inefficience, etc. Et la qualité de vie va s'améliorer pour tout le monde.
Oui. Alors, vous deviez faire un tour du monde pour convaincre justement les décideurs avec votre portfolio sous le bras, faire connaître toutes ces solutions. On imagine que la pandémie, elle a un peu freiné vos projets, Bertrand Piccard ?
Alors, la pandémie aurait bloqué le tour du monde des solutions, bloqué toutes les rencontres avec les chefs d'État si c'était cette année qu'on l'avait prévu. Heureusement, ce n'est pas encore cette année. Cette année, on est toujours en train d'accueillir des solutions. Et la pandémie a été un facteur d'accélération pour nous parce que les entreprises avaient plus de temps pour soumettre leurs dossiers, les experts plus de temps pour les expertiser. Et on a commencé l'année, je crois, avec 300 solutions ou 350 en se disant « mais comment est-ce qu'on va faire pour arriver à 1000 ?» Et on finit l'année, on en aura quasiment 900 à fin décembre. Donc, c'est vraiment extraordinaire.
Alors pour vous, justement, la pandémie, c'est une occasion pour accélérer vers cet autre monde dont vous parlez, avec une économie qui est qualitative et pas quantitative. Et c'est le moment idéal, c'est ce que vous dites.
Mais absolument, parce que moi, je refuse le dilemme entre la décroissance d'un côté qui va nous amener au chaos social, et on le voit avec la crise du Covid, on est dans une décroissance économique. C'est des millions de chômeurs, des milliers d'entreprises qui font faillite. C'est pas ça qu'on veut. De l'autre côté, le mythe de la croissance soi-disant illimitée, quantitative, elle nous amène au désastre écologique et c'est évidemment pas ça qu'il faut non plus. Donc moi, ce que je prône, c'est ce que j'aime appeler la croissance qualitative. C'est celle où on crée des emplois et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement. C'est-à-dire toute une modernisation des infrastructures, des constructions, des systèmes énergétiques, des systèmes industriels, des chauffages, des éclairages, des climatiseurs. Tout ça, c'est le marché industriel du siècle. Alors, si ça coûtait cher de moderniser, je ne pourrais pas tenir ce discours, mais on voit bien à travers toutes les solutions qu'on reçoit de partout que c'est rentable. C'est ça qui va relancer l'économie du monde post-Covid. On ne va pas relancer l'économie en continuant à payer pour des moteurs à combustion inefficients qui n'arrivent même pas à 27% de rendement, alors qu'on a des moteurs électriques maintenant qui sont à 97% de rendement. 97, on ne perd que 3% d'énergie. Donc, c'est clair qu'il faut faire une allocation de financement dans tout ce qui est maintenant moderne. Et c'est ça la croissance qualitative. L'environnement en profite et l'industrie en profite, la protection sociale va en profiter, la qualité de vie, le pouvoir d'achat, c'est ça qui est fondamental.
Mais qu'est-ce que vous répondez justement à vos détracteurs hein, qui disent finalement que ces initiatives, eh bien, ça reste de la croissance déguisée en quelque sorte, hein, même si elle est verte, ça reste un capitalisme vert alors qu'il faut au contraire ralentir, produire moins si on veut avoir une chance de respecter justement l'accord de Paris et de protéger le vivant.
Alors, moi, je ne suis pas pour une décroissance économique, mais je suis pour une décroissance du gaspillage, je suis pour une décroissance de l'inefficience, une décroissance de la déraison. Aujourd'hui, c'est clair qu'on gaspille tellement, tellement de choses que si on devenait plus efficient et qu'on utilisait les technologies d'aujourd'hui, on aurait déjà résolu 50% du problème. Alors, les autres 50%, ça va être ou bien avec des nouvelles technologies qui ne sont pas encore complètement développées aujourd'hui, ou bien alors, effectivement, avec plus de raison dans ce qu'on utilise. Je vous donne un exemple. Si les entreprises vendent tellement, inondent le marché avec des tas de trucs dont on n'a pas vraiment besoin et qui participent à la pollution mondiale, mais c'est souvent parce qu'elles ont des marges bénéficiaires beaucoup trop faibles, elles doivent se rattraper sur la quantité pour pouvoir survivre. Et ça donne des obsolescences programmées, ça donne des trucs qui sont de mauvaise qualité, qu'on jette très rapidement, etc. C'est ça qu'on doit changer. On doit avoir des produits qui sont de meilleure qualité, qui durent plus longtemps, qui coûtent un peu plus cher, mais sur la durée, l'utilisateur va y gagner, parce qu'il n'aura pas besoin de le changer tout le temps, et l'entreprise pourra faire un chiffre d'affaires plus bas, mais en même temps un bénéfice plus haut. Et vous pouvez très bien avoir un changement économique à ce niveau-là qui serait effectivement basé sur une diminution de la concurrence acharnée. Parce que je pense que la concurrence acharnée pousse la qualité vers le bas, pousse les prix vers le bas et pousse la quantité de ce qui est produit vers le haut. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, si la décroissance, c'est ça, je suis d'accord. Mais ça, ce n'est pas de la décroissance économique. C'est de la décroissance de la stupidité avec laquelle on produit trop de trucs inutiles, polluants, qui voyagent d'un bout à l'autre du monde et qui participent au mal collectif plutôt qu'au bien collectif.
Vous dites aussi, Bertrand Piccard, qu'il faut des leaders un peu dans tous les domaines capables de montrer le chemin. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier en ce moment qui incarne à vos yeux ce leader dont on a besoin ?
Écoutez, il y a toute une série de leaders, chacun dans des domaines différents. Vous avez le roi du Maroc. Le roi du Maroc a mis, il y a une dizaine d'années, le but d'avoir 42% d'énergie renouvelable dans son pays, qui doit importer entièrement des énergies fossiles parce qu'il n'y en a pas sur place. Donc, 42% de production d'énergie renouvelable, c'est ambitieux. Et comme il a vu que le pays y arrivait, eh bien, il a monté le but à 52%. Et c'est 52% pour 2030. Donc, il sera toujours là pour être responsable du succès ou de l'échec. Ça, c'est intelligent. Maintenant, il y a des leaders comme John Kerry aux États-Unis, excellent que Joe Biden, le nouveau président américain, le prenne comme envoyé spécial sur le climat. Et puis, vous savez, il n'y a pas besoin d'aller très, très loin, mais je sais que c'est un peu contesté en ce moment, mais Emmanuel Macron a un rôle de leader sur le climat. C'est intéressant parce qu'il est critiqué de toutes parts, mais quand il prend des mesures écologiques, les écologistes disent qu'il marche sur nos plates-bandes. Mais heureusement qu'il marche sur les plates-bandes des écologistes, parce que sinon, il ne fera jamais une politique écologique.
Les écologistes lui reprochent surtout de ne pas aller aussi loin qu'eux le voudraient.
Oui, mais chaque fois qu'il fait quelque chose, on lui dit « vous marchez sur les plates-bandes des Verts ». Donc, il faut savoir ce qu'on se veut. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau politique, il faut avoir une vision qui est expliquée à tout le monde, qui est vraiment communiquée. Et Emmanuel Macron essaye la Convention citoyenne. C'est très original comme processus. C'est très courageux. Alors maintenant, c'est vrai qu'il faut expliquer tout ça. Il faut être très didactique parce que spontanément, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément les enjeux. Et on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut diriger le pays, mais il faut en même temps que le pays devienne efficient. Et la crise du Covid, c'est un test très intéressant. Quand vous avez Bruno Le Maire, et Elisabeth Borne à l'époque, maintenant c'est Barbara Pompili, qui disent que Air France va recevoir des subventions, mais à condition de devenir la compagnie la plus propre au monde, ben voilà qui est intelligent. Parce que les subventions, ça va leur permettre de renouveler leur flotte, d'avoir des Airbus les plus efficients, qui consomment 25% de carburant en moins, qui produisent moins de CO2 et qui, en même temps, sont construits avec de la main-d'œuvre française. Donc, on voit qu'il faut arriver à intégrer des tas de choses. On ne peut pas être fanatique dans son domaine. On ne peut pas être fanatiquement capitaliste. On ne peut pas être fanatiquement écologique. Il faut aujourd'hui mêler les avantages de chacun. Il y a de l'avantage dans l'écologie, il y a de l'avantage dans le capitalisme et il y a aussi des défauts dans les deux. Il faut se débarrasser des défauts et mettre ensemble ce qui marche. Et ça, j'y crois profondément parce que de toute façon, la population ne va pas cautionner une décroissance économique comme celle qu'on a eue avec la crise du Covid et qui fait souffrir tellement de gens.
Alors justement, vous parliez de la Convention citoyenne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions actuellement entre cette Convention et le président de la République. Celui-ci s'était engagé l'été dernier à reprendre sans filtre 146 des 149 propositions. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ces citoyens se sentent un peu floués dans leur travail, sans compter que ces personnes tirées au sort sont souvent l'objet d'attaques, comme s'ils étaient des militants radicaux voulant amener le pays à sa perte. La méthode, elle est contestée aussi, surtout par la droite d'ailleurs. Et quel regard vous portez-vous sur cet épisode justement de cette convention citoyenne, le fait que effectivement finalement tout ne sera pas repris sans filtre comme l'avait dit Emmanuel Macron, et puis aussi le fait que cette méthode finalement ça passe pas partout quoi, elle est pas encore légitime aux yeux de tous les Français.
Bon, je pense que c'était un peu téméraire de dire qu'on allait reprendre toutes les propositions sans savoir quelles allaient être ces propositions, parce qu'il y a des choses qui sont juste pas possibles, qui feraient plus de mal que de bien. Parce qu'il y a beaucoup de défauts cachés dans les bonnes intentions, vous savez. Par contre, je pense qu'il va falloir se remettre en question sur pas mal de choses dans notre fonctionnement, parce que cette convention citoyenne, elle amène des excellentes idées. Alors, il faut voir comment on les adapte. Quand on dit qu'il faut arrêter la publicité pour à peu près tout, c'est peut-être un peu dangereux d'arrêter la publicité sur à peu près tout parce que la plupart des médias vont disparaître. Mais je pense que c'est tout à fait logique d'arrêter la publicité pour les moteurs de voitures gros, polluants et lourds et de la rediriger sur des voitures électriques ou des voitures à hydrogène. Ça, c'est intelligent. Je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de faire de la publicité pour n'importe quoi. Donc, il ne faut pas interdire toute la publicité, mais on peut interdire certaines formes de publicité. On l'a fait pour le tabac. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi pour les SUV qui circulent en ville et qui empoisonnent tout le monde. J'ai pris cet exemple-là pour montrer que probablement à partir de la plupart des solutions de la Convention citoyenne, il y a quelque chose à reprendre, peut-être à adapter, peut-être à modifier. Mais il y a des choses intéressantes vraiment partout.
Et quel conseil vous donneriez justement au président, au gouvernement, pour surmonter finalement cette période de tension avec cette convention citoyenne qui a été déçue après les propos du président, et surtout pour encourager d'autres initiatives? On sait qu'il y a un autre comité citoyen qui va être tiré au sort pour la vaccination cette fois. Et ce serait quoi vos conseils?
Mon conseil, c'est d'expliquer, d'être didactique. Vous avez un président qui est excessivement intelligent et qui pense que tout le monde comprend ce qu'il met en œuvre et qui n'a pas besoin de l'expliquer beaucoup. Et ça crée des malentendus. Je crois qu'à tout niveau, il faut expliquer, il faut décoder le langage qu'on utilise parce que les gens n'utilisent pas toujours les mêmes mots pour dire la même chose. Ça crée beaucoup de malentendus. Donc vraiment expliquer tous les enjeux. Mettre de manière systémique tous les éléments ensemble, toutes les pièces du puzzle ensemble, et montrer pourquoi, de temps en temps, quand on enlève une pièce d'un côté, on ne voit plus l'image, il y a tout qui s'écroule, et pourquoi parfois on peut le faire, mais pas toujours. Et je crois que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de commencer par tout ce qui est financièrement rentable dans la protection de l'environnement. Et ça, c'est notamment l'efficience énergétique. Avec l'efficience énergétique, arrêter de gaspiller l'énergie comme on la gaspille aujourd'hui, eh bien ça crée des emplois, ça fait du profit et il ne peut pas y avoir d'opposition à ça. Ça crée un consensus. Isoler les bâtiments, mettre des pompes à chaleur. Vous savez qu'une pompe à chaleur dans un bâtiment consomme deux fois moins d'énergie que si c'est un chauffage au mazout et 4 fois moins d'énergie que si c'est un radiateur électrique. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. C'est des plans nationaux qui vont permettre aux locataires d'augmenter leur pouvoir d'achat parce qu'ils auront des charges bien inférieures en fin d'année. Donc, commençons vraiment par montrer tout ce qu'on peut faire maintenant, tout ce qui est rentable, tout ce qui peut être mis en œuvre tout de suite. Puis, il y a certaines choses qu'on pourra mettre peut-être dans un deuxième ou dans un troisième temps en place.
Alors, Bertrand Piccard, venons-en à l'accord de Paris. On célèbre cette année les 5 ans de la signature de cet accord. On sait que la majorité des pays qui ont signé ne respectent pas leurs engagements. Les États-Unis se sont retirés, ont perdu de précieuses années pour se mettre en route. Et quel constat que vous tirez ? On sait que vous avez été fortement impliqué dans la COP21 et puis dans toutes celles qui ont suivi.
Oui, en fait, on a beaucoup attendu des unanimités internationales. Ces conférences des Nations Unies sur le climat, toutes les COP, elles ont besoin de l'unanimité des participants. Donc, c'est extrêmement compliqué de combiner le pétrole saoudien et les éoliennes danoises, le photovoltaïque espagnol et le charbon polonais. Et je pense que l'erreur, c'est d'avoir voulu faire une unanimité de décision. On devrait avoir un système dans lequel ceux qui veulent avancer avancent. Et les pays qui veulent vraiment se remettre en question et être plus propres et diminuer leurs émissions de carbone, eh ben, auraient commencé à travailler entre eux beaucoup plus qu'avec ceux qui ne veulent pas suivre le mouvement.
Mais on sait surtout aussi que ça fonctionne si tout le monde s'y met. Si chacun le fait dans son coin, il n'y a pas l'effet escompté non plus.
Non, si chacun le fait dans son coin, curieusement, ça va marcher beaucoup mieux que d'attendre un consensus unanime qui ne vient pas. Et en fait, c'est ça qu'on a vu avec les 5 ans de la COP et qui est curieusement un effet secondaire qui est positif, qui est favorable. C'est qu'il y a eu une telle frustration du fait que ça n'avançait pas qu'il y a des acteurs locaux, régionaux, privés qui ont décidé d'agir tout seuls. Alors, vous avez des entreprises qui créent des coalitions. Emmanuel Macron a beaucoup favorisé ça, hein, des coalitions dans le domaine des entreprises textiles, des entreprises industrielles, des entreprises maritimes, des entreprises dans le digital. Ces entreprises-là se disent, on se met ensemble et on montre que c'est possible. Et puis, il y a des régions isolément qui ont décidé de faire ça. Nous, on travaille avec la région Île-de-France, avec la région Grand Est, parce que Jean Rottner et Valérie Pécresse veulent avancer. Ils ne veulent pas attendre que les COP donnent des résultats. Ils veulent avancer, donc on leur amène des solutions. Ils vont les tester, les mettre en place à l'échelle régionale. Ça, ça n'aurait pas été possible si on attendait les grands consensus internationaux. Donc, je dirais que cette frustration, elle a eu des avantages. Elle a fait bouger les lignes. Et maintenant, les entreprises sont en train d'avoir beaucoup plus de prise de responsabilité parce qu'elles voient bien que les gouvernements ne suivent pas.
Alors en France, il y a eu la crise des Gilets jaunes. On en avait parlé d'ailleurs lorsqu'on s'était rencontrés pour le podcast il y a 2 ans.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a appris de cette crise ? Est-ce qu'on a finalement tiré toutes les leçons de cette crise ? C'est-à-dire faire en sorte que les politiques qui sont mises en œuvre, elles soient perçues comme justes et équitables afin qu'elles ne tournent pas court finalement.
Vous savez, on ne peut pas faire du piquetage comme ça, par-ci, par-là, de l'impressionnisme, on met une petite touche de peinture par-ci, par-là. Il faut une politique totalement cohérente. Comment elle a commencé la crise des Gilets jaunes ? En augmentant le prix du diesel de 8 centimes pour avoir plus de taxes qui sont rapportées à l'État et moins de consommation de diesel. Moi, j'aurais vu quelque chose qui est beaucoup plus intégré dans une taxe carbone généralisée. Mais une taxe carbone redistributive. C'est passionnant de voir ce qu'on peut faire avec ça pour soutenir le pouvoir d'achat. Tout le monde paye en fonction du CO2 qui est émis, ou qui est produit, ou qui est consommé si on importe des choses de l'étranger. Et puis, cette taxe, elle ne va pas dans le budget de l'État. Cette taxe, elle va dans un pool qui est redistribué de manière égale à chacun. Donc, celui qui a une famille peu de moyens, le SMIG, une petite voiture et qui produit très peu de CO2, eh ben il va récupérer plus que ce qu'il a produit. Et celui qui a beaucoup produit de CO2 va récupérer moins que ce qu'il a payé. Et ça permet de redistribuer une équité sociale dans la protection de l'environnement. Et en même temps, ça permet d'internaliser tout ce qui est externe au niveau des coûts, parce que ce n'est pas du tout normal qu'on puisse produire autant de CO2 qu'on veut et ne pas payer le coût de ça. Quand vous achetez un réfrigérateur, vous payez le prix d'une vignette qui comprend le recyclage. Et quand votre réfrigérateur est en fin de vie, eh ben, c'est plus comme autrefois où on va le jeter dans un ravin. On le ramène et on a déjà payé au moment de l'achat le prix du recyclage. Le CO2 ne comprend pas les externalités. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et cette taxe redistributive permettrait de mettre la vraie valeur sur les choses. Et pour ne pas pénaliser les gens les plus défavorisés, eh bien, il y a cette redistribution qui fait qu'ils vont toucher finalement plus que ce qu'ils ont payé. Donc, je pense que c'est quelque chose qui aurait évité complètement le problème des gilets jaunes à l'époque.
Avec le risque de pénaliser certaines personnes dont le job, c'est de se déplacer aussi, ou alors qui sont isolées des grandes villes ou qui font beaucoup de trajets pour justement rejoindre leur travail.
Oui, oui, complètement. Mais vous savez, les industries européennes maintenant, elles sont dans quelle situation ? Elles sont dans une situation où, pour gagner quelques centimes, on délocalise à l'étranger, les productions de CO2 sont à l'étranger, il y a beaucoup de CO2 émis dans les transports, et puis c'est peut-être vendu un tout petit peu moins cher en Europe, mais parallèlement, on paye les allocations de chômage à tous les pauvres travailleurs qui ont perdu leur boulot en Europe pour que le produit final soit moins cher. C'est juste pas normal. C'est pour ça que je dis qu'il faut décroître la bêtise, l'égoïsme et le court-termisme. Ça doit être décru, alors absolument.
Et comment on fait justement, Laurent Picard, pour décroître les absurdités dont vous parlez ?
Oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut une taxe CO2 aux frontières de l'Europe. C'est intéressant parce que l'Europe, maintenant la Commission européenne, dans le cadre du Green New Deal, est en train d'y penser. J'espère qu'ils auront le courage de le faire. Les lois de l'OMC le permettent. Les lois de l'OMC permettent de taxer le CO2 à la frontière pour les biens importés, à condition qu'il y ait une taxe CO2 à l'intérieur du pays, parce que sinon c'est discriminatoire. Donc les règles de l'OMC veulent éviter la discrimination. Mais si un produit provient d'une zone de déforestation et que nous, chez nous, on n'a pas de déforestation, on a le droit de taxer ou de l'interdire. Et pour l'instant, les pays ne le font pas. Les pays se cachent derrière une mauvaise interprétation des règles de l'OMC pour laisser le statu quo en place et surtout pas avoir de conflit avec les pays qui produisent à l'autre bout du monde. Parce que nous, on a aussi envie de leur vendre des trucs. Alors, on veut vendre des avions aux Brésiliens, donc on n'ose pas trop les critiquer sur leur déforestation. On importe leur soya, même s'il est hyper carboné. Enfin, il y a des choses à remettre en ordre maintenant et il faut un certain courage. Il faut un certain courage pour le faire.
Alors, Bertrand Picard, quelques questions pour terminer. Ce ne sera pas l'interview des clics que nos auditeurs connaissent bien, car vous vous êtes déjà brillamment prêté au jeu. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à la réécouter, mais ce sera plutôt l'interview du monde d'après. C'est parti. Est-ce que vous l'aimez bien, cette expression du monde d'après, d'ailleurs, Bertrand Picard ?
Je déteste tellement le monde d'avant, qui était inefficient, inégalitaire, polluant. Que j'aime bien le monde d'après, à condition qu'on arrive à construire un monde d'après qui soit différent du monde d'avant.
Les qualités essentielles pour un entrepreneur dans ce monde d'après ?
De prendre conscience de la manière qu'on a appris de penser et de faire autrement. Parce que les vieilles manières de penser, les habitudes, les certitudes, c'est des prisons. Et si on veut créer et innover, il faut être prêt à penser et à faire autrement que ce qu'on a appris.
Un explorateur du monde d'après que vous admirez ? Pour l'explorateur que vous êtes.
Il n'y a pas encore beaucoup d'explorateurs du monde d'après. Je fais un joker. Je vais réfléchir à la question et voir qui... Ben écoutez, non, je vous en donne un. Je vous en donne un. Oui, oui. Allez-y. L'explorateur du monde d'après, Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, qui lance pour 2035 un avion à hydrogène. Ça reprend tout ce qu'il faut changer dans notre manière de penser pour arriver à évoluer. J'adore son enthousiasme. Il ne fait pas du tout de manière idéaliste, il le fait de manière extrêmement scientifique et il va réussir. Donc voilà un explorateur du monde d'après.
Nous voulons éviter une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale pour les jeunes et les moins jeunes. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, c'était le mois dernier. On a appris qu'un cinquième des Français était déprimé dans ce monde d'après, conséquence des deux confinements qu'on a vécu. Qu'en pense le psychiatre que vous êtes et surtout comment les aider ?
Ils ne sont, sont pas déprimés du monde d'après parce qu'on n'est pas encore dans le monde d'après, on est dans le monde de pendant, on est au milieu de la crise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une crise représente une aventure qu'on refuse et que l'aventure représente une crise qu'on accepte. C'est fondamental de se dire ça parce que si on compte tous les jours en se disant « c'est horrible, encore un jour de crise, c'est atroce, je ne peux pas sortir, pourvu que ça finisse rapidement », ça devient un enfer. Mais si on se dit « c'est une opportunité d'acquérir des nouveaux outils, des nouvelles manières de penser, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences que je n'avais pas avant », et qui me permettront de sortir de la crise plus fort après qu'avant, à ce moment-là, on voit très, très bien ce qu'on doit faire. Très, très bien. Vous prenez le chauffeur de taxi qui n'a plus de clients et qui maintenant, pendant 2 ou 3 mois, apprend une langue étrangère. Eh bien, quand il reprend son travail avec de nouveau des touristes qui viennent en France, eh bien, le gars, il peut parler aux touristes. Il peut leur servir de guide. Et vous allez voir que très rapidement, les touristes vont le rappeler à leur prochain voyage, où ils vont le rappeler le lendemain en disant « Ah ben vous parlez notre langue, on vous garde, vous allez nous véhiculer, nous apprendre, nous montrer Paris, etc. » C'est comme ça dans tous les domaines. Il faut toujours voir ce qu'on peut gagner d'une crise, parce que si on regarde que ce qu'on perd, on déprime.
Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Piccard, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour Impact Positif. On prendra des nouvelles de vous, on vous retrouvera pour voir ce qui se passe avec ces 1000 solutions, avec ce tour du monde que vous allez bientôt entreprendre. Et en attendant, on vous souhaite très très bonne continuation. Merci beaucoup, Bertrand Piccard.
Mais avec plaisir, on pourra comme ça faire ce tour du monde des solutions, rencontrer les chefs d'État avec vous, avec vos auditeurs. Donc ce sera un plaisir de les tenir au courant et de vous tenir au courant. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Eh bien super, merci beaucoup, Bertrand Piccard.
Ça a été comme ça ?
Oui, très bien, très bien.
J'ai beaucoup aimé.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Ferrer pour la réalisation. Merci à Jean-François Montpas pour le mixage. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, ou encore sur mon compte, Sylvia Micone. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, impactpositif.podcast, ainsi que sur lci.fr. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions. Et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à partager et à parler de nous pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.